Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vous aimez mieux les disques ou la radio?
Mais c'est du podcast! Du podcast!
Eh oui, mais très bien, je vois très bien.
Tous les invités ont répondu présent.
C'est la bonté même, la générosité.
Nous sommes arrivés à un carrefour historique.
Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie?
Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement.
Surprise ! Aujourd'hui, pas de petite musique guillerette, pas d'explication plus ou moins capillotractée sur le pourquoi du comment de la troisième saison de Fais-tu frette. Non, non, non. Aujourd'hui, et alors rassurez-vous, c'est de manière très exceptionnelle car mon ego surdimensionné ne le supporterait pas davantage, je vous épargne ma traditionnelle intro. En effet, c'est un épisode quelque peu singulier que vous vous apprêtez à écouter. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du Podcaston. Et si vous ne le saviez pas, vous vous demandez probablement désormais, c'est quoi ça donc le podcaston? Alors c'est assez simple. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts francophones se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif. Les auditeurs, c'est de vous dont on parle, ont ainsi l'opportunité de découvrir des associations caritatives de tous horizons et de les aider en faisant des promesses de dons ou en s'appliquant à court ou à long terme, comme ils le souhaitent, auprès de l'une de ces assos. Alors forcément, Fais-tu frette ne pouvait pas rester sur le bord de la route. Reste qu'il fallait quand même vous proposer un contenu qui soit à peu près cohérent avec ce pourquoi, depuis près de 3 ans, vous me faites l'honneur d'écouter mes tergiversations phonétiques. Ma promesse, c'est de vous faire découvrir de l'intérieur la culture et la société québécoise. Dont acte. Partout dans le monde, la maîtrise de la lecture, de la langue sont des atouts essentiels pour s'émanciper et se réaliser en tant qu'être humain. Mais ici, au Québec, dans ce petit village d'Astérix cerné par les garnisons de 360 millions d'anglophones, la question de l'alphabétisation prend peut-être une dimension plus importante encore. Car s'il est un sujet qui définit bien la culture et la société québécoise, c'est celui de son rapport à la langue. À cette langue de chez nous qui, de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, comme le dit le chanteur Yves Duteil, a su composer toute une symphonie. Alors, puisqu'on parle de symphonie, pour faire vivre ses notes, ses envolées, ses bémols et même ses doubles croches, je vous propose de découvrir la fondation pour l'alphabétisation. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ces deux co-porte-paroles, Salomé Corbeau et Philippe-Audrey Larue-Saint-Jacques. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de prendre le temps de participer à ce podcaston. C'est vraiment très apprécié, comme on dit au Québec.
c'est très apprécié, effectivement, de notre part. En fait, je vais parler pour nous, Salomé.
Oui, oui, mais, je t'en prie. Parlons-nous.
C'est très apprécié.
Vous êtes l'un et l'autre d'éminents acteurs de cette incroyable scène culturelle québécoise. Je dis vraiment incroyable parce que depuis que je suis arrivé, je le dis souvent dans les podcasts, je suis vraiment très impressionné par le volume de la production culturelle québécoise quand on la rapporte à 8 millions d'habitants. Je le répète souvent, c'est quand même moins que la région parisienne. Et pourtant, il y a un volume absolument incroyable. Vous en faites véritablement partie. Salomé, ma première question sera pour toi.
Oui.
Tu es actrice, que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télévision. Mmh. Tu es aussi scénariste et depuis 2000, tu joues au sein de la Ligue nationale d'improvisation, me semble-t-il.
Oui.
J'aimerais savoir, quel est ton rapport aux mots et aux textes?
Ben, en fait, les mots et le texte, c'est deux choses différentes dans mon métier, puisque je suis improvisatrice. Il y a les mots que je génère avec ce qui me sert de cerveau et d'imagination. Ça, c'est des mots que la plupart du temps, j'ai pas le temps de choisir avant qu'ils sortent de ma bouche, mais ils sont reliés à une émotion. Donc, ces mots-là servent à raconter, à transmettre, à réagir. Donc, c'est des mots que je génère de manière complètement spontanée et de manière complètement éphémère, parce qu'une fois l'improvisation terminée, je fais pas que la Ligue d'impro, je fais plein de spectacles d'improvisation. Dès que ce spectacle-là est terminé, ben tous ces mots se sont envolés. Le texte, ça, c'est autre chose. Que ce soit le texte de théâtre, les textes de télévision et tout ça, là, c'est des mots que je vais devoir mémoriser. Donc, c'est des mots que je vais lire, relire et re-relire. Je vais en trouver le surtexte, le sous-texte, le texte d'à côté. Il
faut une bonne vue.
Et ils sont pas du tout éphémères. Ils sont au contraire inscrits soit sur du papier, soit même sur un support numérique, puisqu'on le verra à la télévision ou au cinéma. Donc, c'est des mots qui vont perdurer dans le temps. Et pour moi, j'aime beaucoup le travail dans les deux cas. Dans les deux cas, mon travail est d'être une courroie de transmission, un vecteur d'émotion, et ça prend des mots dans les deux cas. Bien sûr, le corps aussi, dans mon métier, est très important, mais j'aime être, comment je pourrais dire ça, un couloir à travers lequel les mots passent, et j'ose parfois m'imaginer que je les transforme ou que je leur donne une connotation pour qu'ils résonnent chez les gens qui les entendent.
Philippe Audrey, je vais un peu te poser la même question, mais de manière un peu différente. Toi, tu es acteur, mais c'est d'abord comme humoriste, ouais, qu'on te connaît. Sur scène, évidemment, mais aussi dans un balado que tu animes avec Thomas Levac. Oui. D'ailleurs, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je trouve le titre de ce balado, comment dire, il en dit beaucoup sur ton rapport à la langue, enfin en tout cas tel que je l'imagine. Le titre, c'est « Deux princes, les silences du hurlement ».
Ouais.
Quand on commence à manier l'oxymore dans le titre d'un podcast, c'est ce qu'a priori, c'est que le choix des mots, c'est tout sauf un hasard, non?
Non, exactement, mais c'est d'abord, tu sais, je partage avec Salomé tout à fait ce rapport-là que les mots, moi, j'ai pas ces talents d'improvisatrice, donc je suis, j'ai pas le talent d'improviser des mots, des formulations, je suis pas, malheureusement, mais disons que j'ai un attachement assez, au moins équivalent, je pense, parce que tous les deux on partage une formation de théâtre, donc forcément on s'enracine dans la même passion de transmettre des émotions à travers les mots. Mais c'est vrai que, et c'est ce que j'aime de l'humour, c'est que je trouve que les mots, il y a comme un côté un peu formule magique. Comment deux mots qui, justement, on prend l'exemple de les silences du hurlement, silence et hurlement, c'est deux mots assez anonymes, mais quand t'es joint ensemble, oups, ça provoque une petite interrogation, une image bizarre. Un côté, on va se le dire, un peu théâtral, début 2000, mais c'est pas grave.
Début 2000, je l'aurais même daté un petit peu plus. Moi, quand je l'ai dit au départ, je me suis dit, les silences du hurlement, ça fait quand même bouquin du 19e avec un petit peu de poussière dessus. Enfin, moi...
ça me fait penser à Monk.
Exactement.
Mais en tout cas d'une autre époque, mais je trouve ça formidable que deux mots assez anonymes individuellement, une fois juxtaposés l'un à côté de l'autre, provoquent un monde d'images, d'interrogations. Puis en fait, c'est un peu ça mon rapport aux mots, c'est le maximum d'émotions avec des mots les plus... Puis c'est ça que je trouve magique et c'est ça qui me fascine et c'est ce qui fait en fait que depuis pratiquement 15 ans, le moment où j'ai entamé des démarches très sérieuses pour devenir comédien professionnel puis ensuite aller à l'école de l'humour, les mots sont devenus une obsession dans ma vie, littéralement, et j'oserais dire que particulièrement la langue française est devenue une grande histoire d'amour entre elle et moi. En tout cas, entre moi par rapport à elle, mais comme toutes les histoires d'amour de ma vie, je sais pas si c'est réciproque de son côté.
On le voit bien, vous avez un rapport tous les deux, un rapport, j'allais dire, presque intime, avec les mots, avec le texte, avec l'écriture, de par votre métier, mais ça semble dépasser le cadre, j'allais dire, professionnel. Est-ce que c'est justement ce rapport un peu singulier qui vous a amené à vous engager auprès de la Fondation pour l'alphabétisation?
Dans mon cas, je vais répondre juste pour moi, au lieu de parler au nous, mais je sais que... D'abord, moi, j'ai été élevée dans une famille d'intellectuels qui lisaient énormément, ce qui m'emmerdait, clairement. Je préférais faire des cabanes dans les arbres, avoir un BMX, attraper des grenouilles. J'étais une enfant qui bougeait. Je trouvais que ma mère passait des heures dans un hamac avec des bouquins. Je me suis dit, mais c'est une platitude sans nom. Et donc, je comprenais pas du tout cet amour, cet attachement pour les livres. J'étais pas mauvaise en classe, mais j'étais probablement, et à l'époque on le diagnostiquait moins, j'étais probablement déjà dyslexique et dysorthographique. Et comme j'étais à l'école en France, j'étais une élève moyenne en français, donc j'avais toujours des belles dissertations, mais bourrée de fautes, donc je perdais tous mes points. Mais je m'en foutais, je me disais que j'allais faire autre chose dans la vie, que c'était pas forcément nécessaire de lire. Et puis tout d'un coup, à 12 ans, c'est une amie de ma mère qui m'a acheté Zazie dans le métro. De Raymond Queneau. Et le premier mot du livre, il est écrit en phonétique. C'est « D'où qui pue donc tant », qui est écrit en un seul mot, vraiment phonétique, avec des P, des K. Donc, je me suis dit, mais attends, ça n'existe même pas, ce mot-là. Et là, j'ai découvert que les mots, c'était aussi ça. C'est-à-dire que oui, il y a le fameux orthographe, la grammaire, la syntaxe, dont on ne peut pas se passer. Mais il y a aussi comment jouer avec les mots. Et là, ça s'est ouvert comme un monde. C'est devenu... la courroie de transmission idéale pour que mon imaginaire s'inscrive dans quelque chose. Et donc, quand on m'a proposé le porte-parole pour la Fondation, je dis, moi qui n'aimais pas la lecture, qui était dysorthographique et tout ça, je trouvais que j'avais comme assez d'outils dans mon bagage pour dire, je comprends qu'on puisse ne pas aimer ça ou avoir des difficultés, mais si je peux transmettre maintenant la passion que j'ai pour les mots et pour la langue, voilà l'occasion idéale, quoi.
Ouais. On a un parcours, encore une fois, assez similaire, dans la mesure où moi aussi, mes parents, la culture, la littérature particulièrement, mais le théâtre aussi, la dramaturgie, ça a été extrêmement valorisé quand j'étais enfant. Donc, j'ai grandi dans un monde un peu comme le décor dans lequel je suis en ce moment, là, bardé de livres. Et ça fait en sorte que dès le départ, il y avait une sensibilité, puis il y avait quelque chose aussi qui m'interpellait beaucoup dans le fait de, justement, je trouvais que c'était il y avait beaucoup de choses qui m'interpellaient dans le fait de, le fait de vivre un peu avec un père français, une mère québécoise, les mots pour, disons, la polysémie d'un mot, ou au contraire, la différence pour une chose à deux mots. Ça, c'était quand j'étais enfant, c'était quelque chose qui me fascinait, la richesse d'un même objet pour avoir deux définitions, deux mots. Puis l'autre chose, c'était... Donc, je voyais un univers très riche, mais que je maîtrisais pas. Puis ça a toujours été très valorisé de le maîtriser dans ma famille, ça.
Oui.
De bien parler français, d'utiliser le moins d'anglicisme. Mais ça, je pense que c'est ma mère qui avait des petites velléités, on va dire, souverainistes, cachées, mais où la langue, c'était quelque chose à protéger. Non seulement valoriser, mais protéger, parce qu'on était dans un état comme tu le disais au début, cerné par des garnisons de 300 millions d'anglophones. Donc, si on faisait pas attention à l'échelle, disons, personnelle, on pourrait pas faire attention à l'échelle collective. Donc, ça, c'est le climat dans lequel j'ai grandi, un soin particulier. Puis ensuite, il y a ma propre vocation, j'oserais dire, qui est apparue tranquillement, où j'étais fasciné par les niveaux de langue, comment instantanément, en adaptant un niveau de langue un peu plus érudit ou beaucoup plus châtié, on devenait quelqu'un d'autre instantanément. Puis tout ça faisait en sorte que je voyais la richesse du vocabulaire autour de moi. Puis c'est quelque chose qui, spontanément, quand la Fondation m'a appelé, moi, naïvement, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est vrai que les gens passent à côté des grands classiques, passent à côté des grandes œuvres. Oh, c'est dommage. Puis tranquillement, je me suis rappelé que non, en fait, les mots, c'est l'essence même de la communication, donc autrement dit, de nos relations, puis probablement même d'une estime, parce que moi, mon estime, c'est beaucoup construit à travers ce rapport aux mots, cette maîtrise de la langue, donc, et qui était très valorisée. Donc, je fais, c'est beaucoup plus profond que ça. Puis, cette passion que j'ai, j'espère pouvoir la transmettre ou en tout cas rencontrer des gens qui, si en cas de doute, ben, je saurais leur dire, ben non, c'est important, puis voici pourquoi je trouve que c'est important.
Vous êtes très investis tous les deux. Salomé, Salomé, c'est quoi les missions de la Fondation, celle pour laquelle vous êtes engagée?
Ben, c'est, elle est vaste, en fait. Elle va du zéro à, c'est quoi, on peut vivre jusqu'à 108 maintenant? Alors, de zéro à 108 ans. C'est-à-dire que les missions sont à la fois, donc, la lecture en cadeau, qui est le programme pour les enfants, qui est de donner à des enfants des livres neufs, des enfants issus de milieux défavorisés, par le biais des organismes qui s'occupent d'eux, donc les CPE, ça va être les crèches pour les auditeurs français.
Comment t'es bilingue, c'est fou.
Parisien et québécois. et aussi donc les écoles, les maisons de jeunes et tout ça. Donc ça, c'est pour le volet la lecture en cadeau, donc vraiment pour semer la graine de la lecture chez les tout-petits lecteurs et leur donner donc de créer un contact avec la lecture, mais aussi de valoriser le fait que l'objet livre est un cadeau. L'objet livre est quelque chose de précieux parce qu'ils ont évidemment accès à des bibliothèques publiques et tout ça, mais ce qu'on veut, c'est leur offrir un cadeau qui leur appartienne à eux. Et ensuite de ça, ben, il y a l'info à prendre. Alors là, c'est vraiment allant des gens qui ont décroché, mais qui sont, on va dire, quand même capables de lire et écrire, mais qui voudraient perfectionner parce qu'ils sentent qu'ils ont perdu des acquis, même s'ils ont des diplômes et tout ça. Ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas eu à lire dans leur boulot. Hein. C'est pas tout le monde qui a à lire tous les jours. Et puis, avec les Netflix de ce monde, on peut même se divertir sans lecture maintenant. Donc, et ça va aussi des gens qui sont complètement, disons, analphabètes, qui ont vraiment des graves problèmes de littératie. Et à ce moment-là, ben c'est tout un réseau d'entraide. En fait, ça chapeaute tous les organismes qui peuvent leur enseigner. Et donc, ça sert à diriger les gens qui voudraient retourner à l'école, perfectionner leur français, oui, parce que ça peut aussi arriver pour des allophones, et même des gens ben, qui ont malheureusement, c'est ça, pas eu accès à la scolarité pour X raisons, voilà.
Sur le site de la Fondation, évidemment, on peut lire que la vision de la Fondation, c'est de faire du Québec une société hautement alphabétisée. Ouais. Philippe Audrey, toutes mes excuses. La question un peu chiante, elle tombe sur toi. Est-ce que faire du Québec, mais tu l'as un peu effleuré tout à l'heure, donc c'est pour ça que ça tombe sur toi, c'est ta faute en fait. est-ce que faire du Québec une société hautement alphabétisée, c'est aussi un moyen de sauvegarder l'usage du français au Québec?
Oh, ben là, ça prend. C'est sûr que ça prendrait pour répondre précisément à la question des probablement des études de linguistes, en linguistique, en sémiologie, en anthropologie, que évidemment je possède pas à titre de simple humoriste et comédien. Ma scolarité.
Quelle modestie.
Mais c'est intéressant parce que la question, je l'apprécie parce que en fait, je trouve que je pense que naïvement, probablement, oui. Pas oui par la maîtrise nécessairement. Pour moi, oui, ça fait partie du spectre, mais oui par l'attachement, parce que maîtriser une langue, d'abord c'est un rapport d'indépendance sur soi, c'est t'es beaucoup moins vulnérable par rapport aux situations auxquelles tu seras confronté, qui peuvent aller de justement, tu sais, Salomé disait choisir un film sur Netflix, mais même si tu sais pas lire le titre, si je te dis « Ah, il y a Brad Pitt, ouais, mais comme lequel des Brad Pitt? » Fait que bref, même dans ces moments-là, c'est vraiment, on parle du degré zéro là, du niveau littéraire, c'est-à-dire à peine connaître un vocabulaire de base et tout ça, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Donc déjà, il y a ça, je tiens à le dire, mais mettons qu'on prend cet exemple-là extrême. Donc déjà, là, c'est une indépendance sur ta propre personnalité, donc sur ta propre décision. Mais par ailleurs, c'est aussi, je pense, un lien d'attachement à cette langue-là. Puis peut-être naïvement, à la culture que cette langue-là porte. Donc, forcément, tu vas développer, ben j'espère en tout cas que quand on apprend le français ou quand on perfectionne notre apprentissage du français, particulièrement au Québec, ben un, on va être confronté nécessairement à un moment donné ou à un autre à la réalité objective et donc numérique des Français par rapport aux anglophones. Donc déjà, ça peut nous sensibiliser ou pas. Et par ailleurs, ben il y a cette espèce d'aspect, j'oserais dire peut-être charnel, en tout cas sentimental, qu'on développe. Donc on a un double attachement à cette langue-là. Puis donc oui, forcément, j'ai l'impression que ça va de soi, qu'on peut préserver notre culture et même, autrement dit, même l'enrichir, parce que chaque nouveau locuteur arrive avec sa perception, arrive avec sa sensibilité, arrive avec sa perspective, arrive avec son histoire à raconter. Donc, on enrichit, puis je trouve que le Québec est une société qui est très perméable à la découverte de l'autre. Et il y en a peut-être qu'ils seront pas d'accord, puis bref, je serais très heureux d'en discuter avec eux, puis justement, je les écouterais, parce que de ma perspective, en tout cas, on est une société qui est assez perméable, qui écoute, en tout cas, qui sait écouter. Peut-être pas rapidement, mais qui sait écouter éventuellement. Et c'est essentiel. Et oui, oui, excuse-moi, Salomé, je veux pas te couper.
Non, non, mais j'allais dire effectivement, moi, je pense que plus la société va être alphabétisée, plus elle va d'abord, comme tu disais, faire des citoyens libres. Hein, y a rien de pire que t'sais, une plateforme électorale, quand tu maîtrises pas bien la littératie, c'est difficile de faire des choix en tant que citoyen. Là, même, mais aussi par rapport à ce que tu disais, l'attachement à la culture. Il y a énormément de gens qui viennent s'installer ici qui sont francophiles, mais pas encore francophones. Et plus la société québécoise, qui est la société d'accueil, a un niveau de maîtrise de la langue, plus c'est facile d'intégrer ces gens qui ont quelque chose à raconter, qui vont l'apprendre aussi à notre contact. Tu sais. Et moi, je suis d'origine italienne assez lointaine. Là. Mon arrière-grand-père était italien. Il est devenu francophile au début, puis francophone. Parce que pour lui, c'était une langue qui se rapprochait de sa langue maternelle, mais il disait, c'était pas, pourtant, ses cogénères étaient plutôt portés vers l'anglais parce que c'était la langue du commerce. Mais quand c'est la langue de l'amour, que c'est la langue de la fête, que c'est la langue, après ça, il y a des lois, hein, qui protègent maintenant les enfants étrangers sont obligés d'apprendre le français et c'est très bien. Mais plus la société d'accueil, justement, est riche d'expériences à partager, via la langue, plus je pense que la culture s'enrichit de tous ces nouveaux locuteurs, comme tu le disais si bien.
Et donc, ça aussi se renforcit, autrement dit aussi.
Oui.
Nécessairement.
Quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu de plus près à la fondation, moi j'avoue que j'ai été assez estomaqué. J'aimerais savoir si vous l'avez été tout autant que moi. Je vous ai dit pourquoi j'ai été estomaqué. Évidemment, comme tout le monde, je sais qu'il y a des problèmes d'alphabétisation dans le monde. J'en ai entendu parler. Et comme j'imagine beaucoup de monde, ça me rassurait en tout cas pour moi. Moi, quand on parle de problèmes d'alphabétisation, j'imagine véritablement quelqu'un qui ne sait pas du tout lire, oui. Qui ne sait pas du tout parler. J'imagine pas du tout qu'il peut y avoir une graduation. Et c'est un mot qui a été utilisé à plusieurs reprises, déjà la littératie. Mm-hmm. J'ai appris sur le site de la Fondation, et vous qui nous écoutez, vous pourrez y aller, vous y apprendrez aussi énormément de choses, qu'il y a 6 niveaux différents. Et alors, là où j'ai été totalement estomaqué...
Excuse-moi, il y a le 7e qui est Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Le niveau à côté un peu, mais en tout cas,
quand tu sur les sites... Donc, à la Fondation, il n'est pas à jour le site. Hein.
Mais vas-y.
C'est un excellent niveau, celui-là. C'est un excellent niveau. C'est vrai qu'il faudrait le rajouter. Bon, mais si on parle que des 6 qui sont sur le site, qui n'est donc pas tout à fait à jour... J'ai été absolument estomaqué d'apprendre que, selon une enquête qui a été réalisée en 2012, 53,3% des Québécois âgés de 16 ans à 65 ans, donc à partir de 16 ans, c'est-à-dire qu'on a fait des études, 53% des Québécois de 16 à 65 ans n'arrivent pas à lire des textes denses ou longs nécessitant d'interpréter et de donner du sens aux informations. Et ça, c'est le niveau 4.
Ouais.
53,3%. Ouais. Waouh. Et là, j'avoue que je pensais pas qu'il y avait un tel enjeu de société. Là, c'est des chiffres qui couvrent le Québec, mais j'imagine que c'est à peu près partout pareil dans le monde du coup. Vous en aviez conscience, vous, avant de vous pencher sur le sujet, ou c'est moi qui tombe de l'arbre?
Ben, un peu, mais il y avait comme une espèce de, on est une société d'analphabètes, puis ça m'achalait, je me disais, ça veut rien dire, puis c'est pas vrai qu'on est des analphabètes, on a un taux de diplomation. Puis là, quand j'ai commencé à fouiller un peu plus, puis que j'ai vu justement la gradation, les nuances, où là, je me suis rappelée de moi qui rentre dans une maison chez une amie, puis je me dis, voyons, bizarre cette maison-là, qu'est-ce qu'elle a? Les parents ont un travail, c'est des gens assez aisés. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans cette maison? Aucun livre. Mm-hmm. Aucun livre, pas un bottin, pas une revue, rien. Et je me suis dit, ah, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu as un diplôme de cégep en quelconque métier, là, mais avec lequel tu gagnes très bien ta vie. Ça n'a rien à voir ni avec l'intelligence, ni avec le revenu médian. Donc, c'est dur à percevoir dans une société relativement saine et en santé parce que ces gens-là sont pas moins intelligents puis ils sont pas moins riches non plus. Donc,
certainement pas, en fait.
C'est ça l'affaire.
Moi, tu vois, c'est effectivement comme Salomé, c'était comme un gag ou en tout cas un argument assez fallacieux, j'oserais même dire, dans certaines chroniques, des fois, qu'on est une société d'illettrés. Saviez-vous que 50%? Mettant l'accent sur, en n'expliquant pas c'est quoi l'analphabétisme, en gardant ça, hein, on sait pas lire, on sait pas écrire. Fait que forcément, tu dévalues cette statistique-là en disant, mais c'est pas vrai, tout le monde autour de moi ou à peu près sait lire ou écrire. Bon, premièrement, puis là, après ça, tu découvres, en faisant des recherches ou en t'informant que, oh là là, premièrement, c'est pas si vrai que tout le monde sait lire et écrire malgré leur succès. Je pense que un cas qui a vraiment, puis ça remonte à quand même il y a une quinzaine d'années, mais qui a vraiment marqué l'imaginaire, c'était Jacques Demers, tu sais, l'entraîneur des Canadiens.
Attends, peut-être que Jean-Michel, tu le connais pas, c'est...
Oui. Non, Jacques Demers.
Donc, c'était, tu connais la Sainte Flanelle, j'ai vu un podcast d'ailleurs sur Notre-Dame du CH. Et donc, c'était un entraîneur, vraiment un monsieur de hockey que tout le monde adorait, qui a même été nommé sénateur après et qui, lui, était analphabète.
Et okay. Oui, qui s'est rendu au plus haut niveau de la Ligue nationale, directeur général, gagné une Coupe Stanley, et il publie une biographie, et dans son autobiographie, en fait, il annonce qu'il est analphabète, mais vraiment, il sait à peine écrire son nom. Donc, c'est dire le niveau. Donc, c'est effectivement que c'est oui, c'est extrêmement impressionnant. Puis parce que tu te dis, ben c'est là, ça n'a strictement rien à voir avec l'intelligence. Donc, autrement dit, c'est beaucoup plus subtil. Et effectivement, c'est que, tu sais, je veux dire, on vit dans une société où j'ai l'impression que souvent la langue est peut-être perçue comme un poids à porter, comme un truc que si tu sais pas faire ça, il y a un sentiment de culpabilité qui vient avec ça, si tu t'en occupes pas. Puis, donc, autrement dit, si t'es moindrement pas à l'aise, si, puis on va être honnête, la grammaire française, c'est pas la chose la plus simple à faire au monde. C'est la plus logique, par ailleurs, hein.
Il y a des exceptions tout le temps à
exactement.
Tout.
Exactement.
J'en ai déjà parlé. Je vous recommande cet excellent TEDx qu'on trouve sur Internet qui s'appelle La faute à l'orthographe.
Oui. C'est un très bon titre, mais c'est vrai que moindrement que t'es dans une démarche où, puis ça arrive, là, la langue, les règles, tout ça, c'est sûr que tu vas abandonner, tu vas être capable de lire, tu vas être capable de te débrouiller, mais 53%, moi, c'est ça, c'est, en fait, ça explique comment il faut pas avoir de préjugés, comment le problème est sérieux, puis comment surtout, en fait, il y a énormément de travail à faire, mais c'est surtout que ça déjoue les préjugés, parce que si on se fie aux fameux préjugés que quand tu sais pas lire et écrire, ben, t'es un incapable, un imbécile, un ci, un ça, ben, je suis désolé, on vit pas dans une société d'incapables, d'imbéciles à la base. Et certainement pas les gens qui ont des certains troubles de littératie. Et donc, c'est dans ce sens-là que je trouve que ça invite en plus à la sensibilité de tous et chacun, cette statistique-là.
Et quand tu passes 20 ans à être un super, je sais pas moi, contremaître dans les mines, que tu as une expertise de fou sur tout ça, ça se peut que tu n'aies jamais eu à relire depuis la fin de ton secondaire, tu sais.
Ouais.
Et ça fait pas de toi, ça fait de toi justement quelqu'un qui est dans l'ingénierie jusqu'aux yeux. Donc, tu connais des règles de la physique, des règles, tu connais la minéralogie, tu connais plein de choses. Donc, ça n'a même pas rapport avec les connaissances. C'est pas que tu connais pas les choses, c'est que ça t'as perdu la facilité à lire un paragraphe, en extraire les trois idées les plus importantes, en pouvoir en faire un résumé. C'est malheureusement la lecture, c'est pas comme le vélo. Quand t'en fais pas pendant 20 ans, il se perd des notions de la compréhension de texte.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Puis c'est comme la mathématique, comme les mathématiques, quand t'es au secondaire, t'es dedans, puis à un moment donné, whoop, la trigonométrie, ça t'échappe, puis c'est juste dans l'ordre naturel des choses aussi humaines que quand tu t'investis dans un domaine, c'est juste que la littérature, si t'as besoin de signer un contrat à la banque, si t'as besoin, est partout, donc c'est souvent, puis je veux pas dévaluer les autres formes d'apprentissage, mais je veux juste dire que en l'occurrence, la littérature et l'importance de la lecture et de l'écriture, c'est que littéralement au quotidien, des actes, des trucs graves comme des transactions bancaires, faut savoir démystifier ça si tu veux pas être vulnérable. Puis la fondation décerne des bourses annuellement, dont une qui s'appelle la bourse Retour Réussite. Mm-hmm. Et là, c'est des gens en fait qui retournent un peu à l'école d'une certaine façon pour pallier à leur lacune en littératie. Et
de l'entrepreneur qui disait qu'il avait pas de signe. C'est ça que tu l'as
six restaurants, le monsieur avait eu.
C'est ça. Six, quelque chose comme ça.
Ouais, en tout cas, plusieurs. On va dire, mais plusieurs restaurants. Donc, ouais. C'est un monsieur qui a du succès. C'est un monsieur qui a passé sa... Puis le monsieur avait pas 35 ans, le monsieur avait un âge... Donc, autrement dit, il y avait toutes les raisons du monde de faire... Ah, moi, j'ai fait ma vie, j'ai eu du succès, je suis synonyme de succès, whoop, j'ai pas besoin... Mais il y avait quelque chose de plus, puis ce monsieur-là, c'est monsieur Nicolas, tellement gentil, puis c'était hyper émouvant parce qu'il raconte qu'en fait, c'est un projet que son petit-fils lui a proposé, puis il a compris, puis ben en fait, il a senti que il manquait quelque chose à transmettre à son petit-fils, puis c'est devenu hyper émouvant comme témoignage. Mais ce que je veux dire, c'est que le panorama des récipiendaires, des boursiers, est incroyable. On se douterait pas en soi à quel point c'est un problème qui touche toutes les strates de la société, puis tous les types de personnalités par ailleurs.
Il y a la maladie qui peut t'éloigner aussi du système scolaire, tu sais, donc pour X raisons, t'es sorti, t'es déscolarisé parce que malade, tout ça, et qu'après, ben, c'est autre chose qui t'amène à travailler, nana, puis tu fais, ben, dans le fond, j'ai
puis
pas...
La révolution des médias aussi.
Aussi.
Parce que imaginons effectivement qu'on soit, pour des raisons de maladie, qu'on soit obligé d'être déscolarisé. Il y a tout un pan de la littérature, en tout cas celle qui est la plus accessible, la plus agréable au départ, qu'on va pouvoir retrouver en film, en théâtre, en série, en podcast aussi. Il y a des gens qui pourrissent les oreilles toute la journée. Hein. Philippe Audrey, on est tous les deux bien dans cette catégorie-là. Mais effectivement, par contre, il y a pas de série, il y a pas de film, il y a pas de pièce de théâtre pour un contrat bancaire ou pour une démarche administrative. Et ça peut vite fait pourrir la vie de...
Ben oui.
Même la plus intelligente et la plus performante des personnes, quoi.
Et ils ont ils se débrouillent, ils développent des stratégies, tu sais. Donc, c'est ça qui montre qu'ils sont super intelligents parce qu'ils réussissent à, justement, peut-être engager quelqu'un. C'est assez fascinant de voir comment on peut quand même fonctionner. D'ailleurs, on appelait ça pendant très longtemps des analphabètes fonctionnels parce qu'ils fonctionnent très bien en société. C'est juste qu'à certains moments, ben, ils ont une petite honte cachée aussi. Souvent, c'est quelque chose dont ils sont pas fiers, alors qu'ils devraient pas avoir honte. C'est le chemin qu'ils ont parcouru et peut-être pas le même que le mien, mais ils ont pas à avoir honte. Ça, c'est quelque chose aussi qui est difficile de les ramener sur le banc d'école. Mmh. C'est d'abord affirmer comme, ben, j'avoue que j'ai un souci avec la lecture. Et puis, mais c'est souvent des gens super intelligents et super débrouillards pour réussir à fonctionner dans un système sans justement avoir toutes les clés, tu sais. C'est au contraire, moi je me dis tout le temps qu'ils sont souvent plus intelligents que moi, parce que moi si je n'étais pas capable de lire un manuel d'instruction, je ne ferais pas fonctionner un toaster, là, tu sais. Non, peut-être.
je veux pas dire, mais si tu as vraiment besoin du manuel d'instruction pour faire fonctionner ton toaster,
je ne dis pas de le brancher, mais sinon je suis très intelligent.
Bah, parmi les choses que j'aime bien, il y a vraiment énormément de choses que j'aime bien dans, dans les actions de la Fondation. Et effectivement, tout ce pan, et on en a déjà un peu parlé, Salomé, la lecture en cadeau, où en gros, l'idée, c'est un peu de prévenir plutôt que guérir. Mmh. Ça s'adresse évidemment aux jeunes, de leur offrir des livres neufs. D'ailleurs, on y reviendra. Salomé, je sais que tu as animé de nombreuses remises de livres en milieu défavorisé.
Oui.
C'est reçu comment, ces cadeaux?
C'est formidable. C'est vraiment formidable parce que c'est des enfants qui prennent pas grand-chose pour acquis, hein, je vais vous dire, contrairement au mien. forcément. Et donc, la plupart du temps, on va entendre des phrases comme « Mais il est à moi, j'ai pas besoin de le rendre à la bibliothèque. Il est à moi, je peux l'amener à la maison et le lire à ma sœur. » Il y a Mohamed aussi, ça c'est mon préféré dans toute l'histoire, qui est à l'équivalent du CP, donc en première année de primaire, donc il apprend à lire.
Toujours aussi bilingue.
Oui, je suis bilingue. Et il l'ouvre et il fait « Je l'ai jamais lu, celui-là !» Je fais comme « Oui, mais… »
Bonne nouvelle.
Il n'a pas dû en lire tant que ça, mais donc c'est toujours aussi émouvant de voir à quel point ils doutent du fait que ce soit pour eux, à eux, pour toujours. C'est ça qui est le plus émouvant, je trouve. C'est comme, c'est pas leur premier livre là qu'ils ont entre les mains, mais c'est le premier qui est à eux. Et puis moi, je joue avec eux autres. Je leur dis, OK, on va les faire craquer. Surtout les livres pour enfants, la colle est plus rigide souvent. Alors, je leur montre que ça fait du bruit, un livre. Je dis, sentez, ça sent bizarre, ça sent l'encre. Je dis, vous, est-ce que vous, qui a une bande dessinée avec des pages qui brillent? Ça, c'est du papier glacé. Qui a des romans? Et on se met à jouer avec l'objet en premier, juste pour que l'objet soit intéressant et puis qu'ensuite, ces petits gribouillis noirs qui apparaissent se mettent à dire « Ah, mais ça, c'est des lettres, ça, c'est des mots, ça, c'est des phrases, ça c'est des sens, ça, c'est même un récit et des émotions qui viennent avec. » Mais c'est vraiment beau de voir à quel point, et tous les âges, en fait, parce que j'ai fait même jusqu'en troisième et quatrième année, donc ils sont un petit peu plus vieux, ils ont 9-10 ans, et même eux… Pour la plupart, disaient, je peux vraiment le garder, là, il est vraiment à moi, madame? Je dis, oui, il est à toi. Et puis, des fois, ça reste des enfants. Hein. Ah non, j'aime pas les dinosaures. Alors là, on leur laisse échanger entre eux parce que ça reste des enfants. Et puis, et puis l'idée, c'est surtout qu'ils s'y attachent, quoi, à leur livre. Donc, des fois, comme ça, il y a un petit moment où ça échange les livres pour être plus proche de leurs intérêts, mais tant mieux, même, je dirais.
Philippe Audrey, de ton côté, tu as rencontré les donateurs à l'occasion du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors ça aussi, ça m'intéresse d'avoir ton retour parce que pour moi, de ma petite expérience à moi, offrir un livre, c'est pas comme offrir autre chose. Non, je me contente pas d'offrir pour le coup un objet. Si j'offre un livre, il y a une autre démarche et tout. J'aimerais bien savoir comment les donateurs le vivent et comment toi, tu l'as ressenti.
Souvent, en fait, il y a un truc qui était flagrant, c'est à quel point c'était sentimental comme don, à chaque fois. Et s'ils pouvaient pas donner un livre, ils donnaient un 2$, mais c'était toujours fait avec une espèce... Il y avait pas le côté « Ouais, non, je me sens mal. » Des fois, comme on est pris un peu, « Là, oui, je vais donner 2$, mais... » Non, non, c'était tout le temps sentimental. C'était hyper spontané aussi, très souvent. Et aussi, c'était ce qui me touchait beaucoup, c'était que quand ils comprenaient, par exemple, la lecture en cadeau, parce qu'on avait les petites bornes qui ressemblent un peu à des boîtes aux lettres, en fait, dans lesquelles déposer les livres, quand ils comprenaient que, oh, OK, je peux aller donner un livre maintenant, il y en avait plusieurs quand même, je suis resté pas mal toute la fin de semaine, plusieurs qui partaient spontanément dans les maisons d'édition réservées aux enfants ou en tout cas qui ont une collection pour enfants, puis ils revenaient toujours avec hey, celui-là je l'ai lu ou on m'a dit que c'était le meilleur, et donc il y avait pas juste l'idée de donner un livre mais de donner un bon livre. Puis ça aussi c'était vraiment touchant, puis c'est pour ça que je trouvais que c'était comme un don qui était très particulier parce que c'était pas juste pour se donner bonne conscience. C'était beaucoup, beaucoup du cœur, émotif. Et là, souvent, ça venait avec un quelconque témoignage, pas quelconque dans le sens de banal, mais dans le sens où chacun, à sa façon, racontait son rapport à la lecture ou l'importance qu'il accordait à la lecture. C'est pas rare. Puis ça fait en sorte qu'on faisait des rencontres en plus. de gens qui vraiment, ben là c'était le salon du livre, donc forcément c'est un point commun où généralement les gens qui se pointent là aiment la lecture, mais où ont un intérêt. Mais c'était vraiment ça, c'est ça que j'ai pu observer. Puis l'autre chose qui me touchait, puis j'oserais dire qui d'une certaine façon j'étais ému, c'était que il y avait des enfants qui voulaient participer aussi. C'était pas juste des parents ou des grands-parents. Il y avait des enfants qui trouvaient important de donner à leur tour des livres et qui comprenaient, je sais pas comment, mais en tout cas certainement alors qui comprenaient l'enjeu et l'importance ou le plaisir à transmettre. Et donc c'est ça, c'est une sorte, c'est très particulier comme et très unique, j'oserais dire, très singulier comme campagne, la lecture en cadeau, parce que ça s'adresse aux enfants, donc forcément comme beaucoup de campagnes s'adressant aux enfants. Ça vient chercher une corde sensible, mais là, la littérature, il y a vraiment l'idée de transmettre quelque chose et d'optimiser les chances d'adoption et d'adhérence à la littérature chez ces enfants-là.
Moi, j'ai croisé.
Oui, vas-y, excuse-moi.
Non, mais j'ai croisé Simon Boulris au Salon du Livre, parce que moi aussi, j'y étais, on alternait les deux porte-parole. Puis Simon Boulris, il me dit, « Faut que je te raconte quelque chose, Salomé. Je viens d'autographier 10 livres qui s'en vont à la Fondation pour l'alphabétisation. » Je dis, « Ah, ben, c'est bien chouette. » Il dit, « Oui, oui. » C'est une fille qui est venue me demander de signer ces livres-là parce que elle, petite, avait bénéficié de la lecture en cadeau. Et elle avait reçu un livre autographié de l'auteur. Et elle s'est dit, j'avais l'impression que l'auteur voulait me dire, t'es importante, continue à lire, tu vas voir. Et elle est professeure maintenant, elle est enseignante. Et elle a fait donc signer tous ces livres-là à Simon pour que 10 petits aient la même expérience qu'elle avait eue en recevant un livre signé par l'auteur. Donc, c'est une chaîne, en fait, tu sais, ça crée des lecteurs, ça fait du bien à des enfants. C'est peut-être pas tous les enfants qui vont devenir de grands lecteurs, tout ça, mais c'est tous les enfants, en tout cas, qui vont avoir reçu au moins une fenêtre sur le monde. J'appelle les livres une fenêtre
sur le monde. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, parce que
100 000.
On en est à la 25e édition de la lecture en cadeau. C'est déjà plus d'un million de livres qui ont été offerts à des enfants. Et, et cette année, la nouvelle campagne commence en août 2023. Et l'objectif, c'est d'offrir quand même 175 000 livres jeunesse aux enfants québécois. Bel objectif, quand même.
Ouais. C'est ambitieux, mais chaque année, il y a une progression annuelle. Donc, l'ambition est quand même... on a le droit d'être ambitieux.
Et surtout qu'on a environ pour 250 000 demandes.
Oui, en donc, plus.
Ah, la demande est de 250 000. Après, on peut pas... c'est ça, on peut pas répondre à toutes les demandes, mais on va au plus urgent. Et c'est à travers tout le Québec. Hein. C'est évidemment pas montréalo-centré ou... c'est vraiment dans toutes les régions du Québec.
Ça commence au mois d'août pour la 25e édition. Plus proche de nous, il y a en ce moment une autre campagne en cours. Ça s'appelle A pour tous pour l'alphabétisation. Est-ce que l'un de vous deux peut m'expliquer en gros en quoi ça consiste?
Non, mais c'est dans ça.
Allez, je vous ai piégé. Mais moi, je sais. Et vous allez voir.
Non, c'est pas la marque. En fait,
oui, exactement.
Oui, ok, c'est la marche. Oui, ben, ok, dans le vocable, on appelait ça la marche. Mais...
c'est ça, c'est que nous, n'étant pas les sportifs les plus pertinents...
Alors, c'était ma prochaine question. J'allais vous demander si vous alliez participer. Pour faire court, A pour tous et tous pour l'alphabétisation. C'est un autre programme par lequel, en fait, vous pouvez vous inscrire et proposer vos propres défis, organiser vos propres défis, des défis que vous allez pouvoir organiser avec comment dire, quelques supports techniques qui vous sont fournis, mais qui vont permettre d'agréger des personnalités, des personnes autour de vous, de récupérer de l'argent et d'en faire évidemment le don à l'association. Et si vous n'avez pas le goût d'organiser vous-même votre propre défi autour de vous, il y en a un grand qui sera organisé le 22 avril prochain au Parc Jean Drapeau à Montréal. J'ai cru comprendre que mes deux porte-paroles ne seraient peut-être pas les premiers à parcourir. C'est des parcours de 5, 10 ou 21 kilomètres. Salomé, tu vas le faire?
Non, non, c'est-à-dire que je vais peut-être marcher un 5 km. C'est juste que je travaille cette journée-là. Enfin, il faut que je réussisse à me catapulter jusqu'au parc Jean-Drapeau. Mais c'est sûr que vous me verrez pas courir. J'ai des vieux genoux de danseuse. Mais il se peut que je le marche, oui. Il se peut que je marche ça. Je sais faire quand même marcher pour la cause. J'y arrive.
Ouais,
c'est vous pouvez réciter des poèmes en marchant, même si vous
voulez. Oui, c'est ça. Moi, moi, quand ils m'ont parlé de sport, j'ai fait, oh là là, OK, ça m'a rude épreuve.
Mon amour des mots.
Parce que c'est ça, je le fais pas pour mon propre corps, fait que si c'est pour l'alphabétisation, je peux le faire, mais c'est... disons que j'en fais des cauchemars en ce moment.
Ah oui, quand même.
Oh, non, mais c'est pas ma tasse de thé.
Bon, je peux comprendre. Si vous, c'est votre tasse de thé, c'est le 22 avril au Parc Jean-Drapeau. Et donc, la possibilité, vous allez sur le site de la Fondation. Vous avez évidemment toutes les coordonnées voilà, que j'ai mis en coordonnées.
C'est ça, vous n'êtes pas obligé de courir. Hein. Vous pouvez évidemment...
Non, vous pouvez faire plein de choses. Voilà. Il y a ce défi qui est organisé au Parc Jean-Drapeau, mais vous pouvez imaginer plein d'autres défis. Je pense qu'il va y avoir certainement plein d'autres défis organisés aussi par d'autres associations. Enfin, il va y en avoir un petit peu pour tout. Tout est bon pour récolter des fonds.
Jusqu'à Québec, ils sont revenus, je pense, des directeurs de théâtre, des amis comédiens, eux, ils avaient besoin d'un défi du type marathon. Je les trouve formidables, mais vous êtes vraiment pas obligé de courir jusqu'à Québec. Là. Vous pouvez aussi vous faire un souper. Je sais pas où tous les plats commencent par M. Et puis, voilà. Non, mais les défis peuvent être multiples. Il y a pas de règles. Les défis, c'est comme vous voulez.
Ouais.
Bien. Si vous avez, vous aussi envie de ressentir un petit peu de tout ce que Salomé, Philippe Audrey et tous les membres de la Fondation pour l'alphabétisation ressentent en s'engageant, vous pouvez dès à présent, là, tout de suite, maintenant, vous allez sur votre petit ordinateur, tac, 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 et puis vous connectez. Vous pouvez aller sur le site du Podcaston, podcaston.org, et faire une promesse de don. Et comme je sais que vous avez de la suite dans les idées, vous pouvez immédiatement transformer votre promesse de don en don. Ferme, espèce sonnante et trébuchante, comme on dit. Un don définitif en vous rendant sur le site fondationalphabétisation.org. Et même que si vous donnez plus que ce que vous avez promis initialement sur le site du podcaston, vous savez quoi, on sera pas plus fâché que ça. Sans rancune, comme on dit chez nous. Ah, d'ailleurs, petite précision pour tous ceux qui nous écoutent en Europe ou ailleurs et qui auraient envie de contribuer à cet élan de solidarité au Québec. Les cartes bancaires internationales sont-elles aussi acceptées, les amis? Comme d'habitude, tous les liens, que ce soit pour accéder au site de la Fondation, aux campagnes de dons, aux activités, aux campagnes dont nous avons parlé, et toutes celles dont on n'a pas parlé aussi d'ailleurs parce que le temps nous était compté, tout ça, ça se trouve en commentaire de cet épisode. Et si vous avez envie de découvrir d'autres associations qui, comme la Fondation pour l'alphabétisation, changent le monde et le rendent un peu plus beau, je vous invite à aller sur le site du Podcaston. Vous y découvrirez tous les podcasteurs participants et toutes les associations mises en avant. D'ailleurs, pour ma part, je commencerai par l'excellent podcast VLAN de mon ami Grégory Pouy, qui a choisi de mettre en avant l'incroyable association LOBA. Salomé, Philippe Audrey, mille merci vraiment de m'avoir accordé tout ce temps pour parler de la Fondation. C'est un honneur et un plaisir.
Merci Jean-Michel.
Un plaisir et un honneur partagé. Merci beaucoup.
Oui. À très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants, tout ça vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu-frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu-frette, à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu-frette, FAISTUFRE2TE, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.